30 minutes pour convaincre, l'émission politique de Judaïque FM, animée par Gérard Hacoun et Vladimir Spiro. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Noël Lienemann. Vous êtes sénatrice du Parti Socialiste de Paris. Première question, Gérard Hacoun.
Alors, quel bilan tirez-vous de l'an 1 de Hollande?
Écoutez, un bilan contrasté. Je pense qu'il y avait eu un démarrage intéressant, notamment avec la volonté de commencer à faire une nouvelle architecture fiscale, hein, avec toute une série de mesures qui ont été prises pour plafonner les niches, pour mieux faire contribuer le capital et le travail. Et puis, il y a eu des mesures importantes comme les emplois d'avenir ou bien les emplois de génération. Mais là, je trouve quand même qu'il y a toute une série de décisions qui ont été un peu contradictoires avec les engagements que nous avions pris. Le premier moment qui a été pour moi un peu un choc, ça a été le fait qu'on a ratifié le traité européen, le fameux TSCG, alors qu'on avait dit qu'on allait et le modifier et le compléter, qu'il devait y avoir un pacte de croissance adossé et en même temps transformer ce traité. Il y a bien eu un pacte très petit de croissance dont on voit que l'effet est totalement insignifiant. Et on a toute la logique de l'austérité qui se poursuit. La deuxième chose qui a été pour moi un deuxième ébranlement, ça a été quand il y a eu la décision après le rapport Gallois, qui d'ailleurs était plus équilibré. Il y avait tout un volet, notamment sur les filières industrielles dont on n'entend plus parler, qui a été de donner un cadeau fiscal de 20 milliards d'euros aux entreprises, dont la moitié de ça ne va pas aux industries ni au secteur en compétition mondiale important pour regagner des parts de marché, qui sont des entreprises comme Carrefour, comme La Poste et autres, qui n'ont pas besoin d'argent pour une compétitivité dans la bataille de l'exportation ou de réduire les importations. Et puis, sans contrepartie pour les salariés. Ensuite, la décision qui était juste d'essayer d'obtenir en France davantage d'accords sociaux et de négociations sociales. Et puis, c'est le fameux accord Annie où on retrouve l'idée de l'accord compétitivité-emploi qui fragilise considérablement le droit du travail, qui est certes signé par des syndicats, mais par des syndicats qui représentent tout juste la moitié des salariés. Donc tout ça me paraît quand même pas être dans l'esprit du souffle du Bourget.
Vous avez, dans une interview, vous avez déclaré qu'il fallait relancer l'investissement.
Oui.
Ça va un peu dans le sens de ce que vous venez de déclarer. Mais on peut quand même se poser la question, avec quels capitaux l'État en a plus, le privé, ce n'est pas évident, et l'étranger, vous semblez le récuser.
Non, alors d'abord, le plan que nous avons proposé, c'est un plan de relance qui a deux piliers. Il y a un pilier consommation pour 28 milliards d'euros et il y a un pilier relance par l'investissement pour une vingtaine de milliards d'euros.
Ça fait
48 au total. Tout n'est pas de la dépense d'État parce qu'il y a des choses qui sont conditionnées à des choses existantes. Donc, ils vont avoir un effet de croissance si on le conditionne un certain nombre d'aides publiques, par exemple, à un certain nombre de décisions. Bien, si on décide un moratoire sur les hausses de loyers, sur toutes les hausses de loyers, ça a un impact sur l'allocation logement, mais qui n'a pas de dépenses en particulier. Bon, en tout cas, revenons à l'investissement. Nous proposons une vingtaine de milliards d'investissements bien ciblés sur des sujets où on va préparer notre industrie en lui offrant des marchés.
Quand vous dites « on », excusez-moi, c'est qui ?
La puissance publique va, en accord d'ailleurs avec les branches, va pouvoir contribuer à soutenir des activités industrielles. Prenons un exemple, la nécessité du haut débit disponible sur l'ensemble du territoire, indispensable pour la productivité de nos PME et de nos entreprises. Par exemple, si on veut soutenir les voitures électriques, la filière électrique et l'accélération de sa mutation, il faut à la fois de la dépense publique, par exemple, en disant toutes les collectivités locales achèteront X% au moins de leur flotte en électrique, mais il faut aussi des bornes pour recharger. Et pour installer des bornes, ben il faut un accord général et il faut un peu d'investissement public. Alors pourquoi cette relance d'investissement et comment trouver l'argent ? Premier volet, Vous savez, le fait qu'aujourd'hui, quand on emprunte à des taux d'intérêt inférieurs à 2%. Chaque fois qu'un investissement public rapporte plus que les 2% empruntés, c'est un bon investissement. Donc, nous proposons de mettre une caisse sur ces investissements publics avec des recettes liées au fait que, par exemple, s'il y a des bornes électriques, il y a des retours de trucs qui doivent équilibrer le principe des intérêts particulièrement bas aujourd'hui. Deuxièmement, vous avez d'ailleurs dans la BPI de l'argent qu'on pourrait mettre pour ça, mais surtout, vous avez une épargne des Français qui est considérable, notamment l'épargne logement. Et il faut absolument orienter l'épargne logement vers des dynamiques productives qui vont être des dynamiques qui vont permettre d'investir en France, soit pour l'industrie, soit pour le logement, soit pour des activités productives.
Attendez, excusez-moi de vous interrompre, mais les gens qui ont mis de l'argent dans l'épargne logement n'ont pas du tout envie de voir que cet argent puisse être risqué dans l'industrie.
Mais pourquoi ? Non, il n'est pas plus risqué,
parce évidemment. Parce qu'en principe, il sert à acheter un logement.
Non, attendez, je ne parle pas de l'épargne logement, là, je parle de l'épargne de l'assurance vie.
Ah, d'accord. C'est pour ça que je vous ai fait préciser, parce que...
De l'épargne sur l'assurance vie. Il y a beaucoup d'épargne des Français. L'épargne individuelle pour acheter son propre logement, on ne va pas y toucher. La question, c'est la masse de l'assurance vie en France, qui est souvent très risquée, puisque pour une part d'entre elles, elle a été mise dans les obligations d'État du Sud. Donc là, on ne s'est pas posé le problème du risque que ça représentait. Et évidemment, c'est pourquoi je vous parle du fait qu'il doit y avoir... la banque publique doit être le lieu où un secteur public doit être le lieu où une partie de cet argent est placée pour qu'il y ait des garanties qui soient données à celui qui place l'argent. Et les garanties, elles peuvent être des garanties d'État ou elles peuvent être adossées aux investissements qui vont être faits. Il y a un travail de médiation entre le risque et l'épargne que l'on va orienter. Et donc, il y a aussi les ressources de la Caisse des dépôts et consignations. Tout le livret A n'est pas, en l'état actuel, utilisé. On avait dit qu'on allait doubler le plafond du livret A. Voilà. Donc, il y a de l'épargne en France. C'est d'ailleurs un de nos chances. Cette épargne, elle doit être placée au service du redressement national. Et en particulier l'industrie, mais les infrastructures publiques aussi.
Alors, je vous parlais de la dette et du taux d'intérêt. Il est évident que si nous augmentons encore la dette, eh bien, à ce moment-là, il est certain que les intérêts vont augmenter. Ils
ne
seront plus au taux qu'ils sont aujourd'hui.
Pas du tout certain. Parce que d'abord, quand vous regardez les marchés, quelles critiques ils font au risque français, c'est le fait qu'il y a la faiblesse de sa croissance. Et les investissements dont on vous parle sont des investissements qu'on a choisis pour pouvoir se déclencher vite. Par exemple, on sait qu'on a aujourd'hui déjà, en France par exemple, Canal Seine Nord, on a déjà des projets en cours. Et donc, notre faiblesse par rapport aux agences de notation et au marché, c'est le sentiment que notre croissance est atone. Et d'ailleurs, il y avait Bill Clinton il y a quelques jours en France qui disait « Mais bougez-vous, sortez de ce carcan budgétaire, sinon vous allez avoir de grosses difficultés. » La deuxième raison, c'est le fait que notre taux bas, on l'a bien vu, on a perdu le triple A et on a pourtant des taux comme on n'en a jamais aussi bas. La raison de notre taux bas est liée à notre différentiel par rapport aux autres. C'est-à-dire, on est, par rapport à tous les autres qui sont partout en difficulté lourde, relativement plus fiable. Et je le crois que la France est un pays riche. Et pourquoi on est fiable ? Parce qu'on sait qu'on est un pays riche. On sait qu'il y a de la possibilité fiscale. On sait qu'il y a de l'épargne. Le total épargne publique, endettement public et endettement privé pour la France est très moyen. Et l'endettement public fort, l'endettement privé plutôt faible. Et alors que dans les pays anglo-saxons, on a souvent le curseur inverse. Donc nous sommes un pays fiable, relativement fiable, qui fait que notre différentiel joue en notre faveur. Et c'est pourquoi d'ailleurs je suggère qu'on prenne des décisions rapides. Parce qu'il faut faire des investissements où on peut emprunter tout de suite, parce que c'est maintenant que ça se passe bien. Il ne faut pas des investissements qu'on annonce pour Pétaouchnoclésois. Et puis, à ce moment-là, les taux d'intérêt, la donne aura changé.
Marie-Noëlle Lindemann, certains, et non des moindres, prétendent que la gauche que vous représentez, puisque vous représentez en fin de compte l'aile gauche du Parti socialiste, n'est pas très réaliste dans ses propositions.
Bah écoutez, on voit ce que donne le réalisme des autres. Ils ont l'air très très réalistes. Leur situation est catastrophique depuis des années de réalisme. Bon, nous sommes réalistes. Nous avons été les premiers à dire on n'aura pas les 3% de déficit. Nous sommes les premiers à dire nous n'aurons pas la version de la courbe du chômage. Donc arrêtons de raconter des bobards. Donc le réalisme, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qu'on disait pendant la campagne, si on n'a pas une stratégie de croissance, on n'aura pas de réduction des déficits. Le réalisme, c'est de partir du réel tel qu'il est. Donc si le réalisme, c'est considérer qu'il faut continuer une politique comme elle a toujours eu lieu, qui nous a amené depuis 10 ans dans les choix européens, dans le mur, eh ben, nous nous disons il est temps de ne plus l'être comme ça. Notre réalisme, il part des faits réels. La désindustrialisation de la France. Je vous rappelle que quand la gauche du Parti Socialiste expliquait que les stock options étaient des âneries, que le capitalisme financier, toute la titrisation, tout ça allait nous amener dans le désastre, nous étions considérés comme pas réalistes. C'était le monde, la modernité. Hein, quand on disait que l'industrie ne doit pas être abandonnée au profit d'une modernisation qui est nécessaire, elle doit muter, mais elle ne doit pas être abandonnée. On disait vieux archaïque, vous n'avez rien compris, c'est l'économie de service. Ben non, il y a l'économie réelle. Nous, on tient à l'économie réelle. Et c'est ce réalisme-là qu'on développe.
Écoutez, Monsieur Hollande était en Allemagne ces jours-ci pour les 150e anniversaire de la SPD et il a vanté les réformes de Schröder. Alors cela va-t-il vous éloigner encore plus de la majorité, enfin de la partie de la majorité qui se trouve actuellement au gouvernement?
Ça ne va pas nous éloigner du Parti socialiste parce que le Parti socialiste a toujours pris position contre ces réformes. Ça ne va pas nous éloigner de Lionel Jospin qui était au gouvernement, lui, en France, quand Schröder faisait préparer ses réformes. Et nous, on considère que la politique de Jospin n'était pas moins bonne que celle de Schröder.
Oui, enfin, les résultats 10 ans après sont quand même très différents.
Oui, mais je vous rappelle que 10 ans de droite, hein, donc on peut dire que c'est les réformes de Schröder, peut-être, mais c'était des politiques de droite. Donc moi, je pense d'ailleurs que ce n'est pas vrai, la situation de l'Allemagne n'est pas si mirobolante. Le modèle allemand est un modèle particulier. Et c'est absurde de croire qu'on peut le copier. C'est un modèle qui sous-traite massivement son industrie aux pays PECO, à côté, les pays de l'Est, qui utilisent donc une main-d'œuvre hyper pas chère à côté de chez elles. Deuxièmement, c'est un système où effectivement le taux de pauvreté s'est accru. Il y a aussi un génie allemand de l'industrie. Ils n'ont pas abandonné l'innovation industrielle. Et nous, au moment du soi-disant réaliste, là, on vendait tout le capital public à des financiers qui ont été des hedge funds, qui ont évidemment massivement délocalisé pour simplement la rentabilité capitalistique. Pendant que les Allemands, ils travaillaient à de l'innovation entre leurs PME, leurs grandes entreprises, leurs banques mutualistes, leurs banques de Land. Voilà. Donc, il y a des choses positives, mais les positions de Hartz... Alors, le comble, je ne vais quand même pas avoir l'ironie de dire à François Hollande qu'il a parlé devant un SPD dont le congrès a été orienté sur le fait qu'il y avait des effets particulièrement négatifs de ces mesures de Schröder. Ça ne me paraît pas d'ailleurs le rendre un bon service. Et moi, nous avons avec la gauche allemande, avec 21 députés du SPD, plus d'une quinzaine de députés italiens, un député des Portugais et Espagnols, fait un appel des gauches, de la social-démocratie et des PS européens, des députés, des parlementaires, pour tirer la sonnette d'alarme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le peuple va voter ailleurs. À force de mépriser les attentes sociales, le peuple... Le modèle suédois, vous avez vu les émeutes dans les banlieues suédoises qu'il y a aujourd'hui? Même là, et c'est pourtant pas le pire des modèles dans l'Union européenne. Donc on voit bien, nous ne croyons pas à ce choix-là. Qu'il y ait besoin de repenser la réindustrialisation de la France, oui. Par ces méthodes, non. Il y a d'autres voies.
Vous n'avez pas l'impression tout de même que les dernières décisions européennes, Marie-Noëlle Lienemann, vont quand même dans votre sens, c'est-à-dire qu'au fond l'Europe a donné à la France un peu plus de temps pour arriver à ces fameux 3% de déficit.
Oui, alors, d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a des gens avec qui on a des grandes convergences de fait d'analyse, même si, évidemment, toute proportion, il faut regarder la différence. La stratégie d'Obama nous paraît beaucoup meilleure que la stratégie de l'Union européenne.
Quand il a la fédérale avec lui.
Mais voilà, je vais en revenir. Oui. Pourquoi Obama peut agir? Premièrement, il peut agir sur la politique monétaire, ce qu'ils ont fait. Deuxièmement, lui, il ne s'est pas embarrassé de dogmes idéologiques. Hein. Quand on a refusé de nationaliser temporairement Florange, lui, il l'a fait pour l'automobile. Il est en train de faire des centres d'innovation avec de l'argent public pour les entreprises, comme nous le proposons sur nos filières industrielles. Il a rallongé l'indemnisation des chômeurs en durée et en soutenant sa consommation intérieure par cela. Il a amélioré le chômage partiel, toutes choses qui sont dans notre plan de relance. Donc quand on nous dit vous n'êtes pas réaliste et autres, je m'excuse, mais il y a quand même des comparaisons qui méritent d'être regardées.
Alors, il y a un dynamisme américain quand même qui est largement supérieur au dynamisme français. Serait-ce que même par rapport à l'Allemagne, la France n'est pas très dynamique.
Non mais attendez, après on reviendra sur pourquoi la France n'est pas dynamique, c'est une question idéologique majeure. Pour moi, c'est fondamental de
revenir. La question de l'Europe.
Je vais d'abord redonner à l'Europe. Sur la Convention, c'est là où il y a une erreur. D'abord, l'Europe parle beaucoup de mots et ne fait pas d'actes conformes à ces mots. Exemple, on nous parle croissance. Oui, on va prendre conscience de la croissance. Alors, quelles conséquences? Eh bien, on continue comme avant, plus vite. Il faut déréguler plus vite les professions, les vétérinaires, les notaires, vachement utiles pour la compétitivité. Ensuite de ça, on vous explique qu'il faut remettre en cause les retraites, l'UNEDIC. Il n'y a pas besoin que ça aille bien, qu'il pleuve ou qu'il vente, l'Europe a les mêmes solutions. Il faut aller plus vite pour tout déréguler. Voilà. Donc, et ils continuent à nous faire ça en dépit d'un discours apparent sur la croissance, car ils viennent de présenter un pacte de compétitivité qui dit toutes les réformes structurelles, la sécu, la santé, le truc, devra passer devant les fourches caudines de la Commission européenne pour voir si ça ne nuit pas à la compétitivité globale. En l'occurrence, si ça ne nuit pas à l'Allemagne. Donc la réalité, elle est là. L'Union européenne telle qu'elle est nous donne un délai pour nous imposer ces trois conditions des réformes structurelles, pour nous pousser, pour nous dire « d'accord les petits gars, vous êtes sous perfusion » entre guillemets, parce qu'ils ne payent rien. Nous sommes contributeurs nets en Europe. Monsieur Barroso, sans l'argent de la France, il est rien. L'Allemagne paye 27, on paye 20. Bon, donc, et ils veulent nous mettre sous la pression des réformes structurelles à nous imposer, dont on voit que partout elles ont été mises en œuvre, ça va mal. Même en Hollande. Alors c'est là pourquoi je préconise que la France prenne une initiative majeure en Europe en disant qu'on va suspendre le pacte de stabilité. Les Néerlandais, qui sont pas... Parce que quand Hollande est arrivé, on peut mettre à son crédit que le rapport de force était difficile. Il y avait l'Europe du Nord d'un côté, l'Europe du Sud de l'autre. Aujourd'hui, dans l'Europe du Nord, les Néerlandais, Dieu sait que... Vous rappelez-vous, M. Bolkestein, les Néerlandais, hein, les Néerlandais ont décidé de suspendre le pacte de stabilité. Donc nous disons, par exemple, c'est bien que François Hollande dise dans sa conférence de presse qu'il veut un gouvernement économique de l'euro. On l'a toujours demandé. D'ailleurs, depuis Bérégovoy, la France se demande. Mais c'est toujours plié, in fine, au diktat de l'Allemagne. Aujourd'hui, il faut que ce gouvernement, si c'est pour accompagner le pacte de stabilité et faire les réformes structurelles qu'on nous impose, qui nous emmènent dans le mur, c'est pas ça un gouvernement. Nous, ce qu'on demande, c'est suspendre le pacte de stabilité, mettre autour les 27 pays pour créer une feuille de route de sortie de crise et de relance de la croissance avec des politiques plus contracycliques. Dans la période où il y a des faibles croissances, on injecte de la dépense budgétaire. Dans la période où il y a des faibles, où la croissance revient, là, pour le coup, je serais d'accord pour qu'on dise X% de cette croissance, elle doit aller à résorber le déficit. De ce point de vue, c'est la tradition keynésienne, sauf qu'on prend le keynésianisme quand ça va, il faut pousser, on ne le prend pas quand il y a le bénéfice pour essayer de mettre de côté les réserves dont on peut avoir besoin pour l'avenir. Donc voilà. Ce que nous attendons de l'Europe, et c'est une illusion de dire qu'ils nous donnent, en nous donnant du délai, c'est une illusion de croire qu'ils vont sur notre terrain. Et d'ailleurs, c'est là le désaccord qu'on a depuis longtemps. Moi, je fais partie de ceux qui ont voté contre le traité d'Amsterdam. J'avais voté oui à Maastricht, j'ai voté contre Amsterdam, j'ai voté contre le traité constitutionnel, parce que on ne peut pas admettre que dans une démocratie, il y a un dogme économique préétabli. D'autant plus, on découvre aujourd'hui qu'une partie des fondements était absurde sur le taux d'endettement. Là, vous 3%, avez vu, ils sont, et puis les 3%, on se rend compte qu'il y a un coefficient déflateur. Bref, on est tributaire de données économiques sans choix politique régulier. Donc nous disons pas de carcan préétabli, des feuilles de route décidées tous les 3-4 ans par le Conseil des ministres européens, après le retour avec les parlements, où on gradue l'effort que chacun peut faire pour soutenir la croissance, pour éviter les dérapages des déficits publics.
Alors, vous deviez parler du réponse sur le dynamisme.
Oui, alors sur le dynamisme des Français. Moi, je pense que les Français ont été déprimés parce que le modèle libéral a percuté leur modèle républicain. Et ils devraient reprendre. Pourquoi ? Parce que la France, je vous parlais du modèle allemand, mais il y a un modèle français. Moi, je n'ai pas honte de la France dans l'état actuel. Hein. D'ailleurs, le nombre de Français qui ont envie de se précipiter en Allemagne n'est pas gigantesque. Hein. Donc, le modèle français était articulé entre l'initiative privée et l'intervention publique. Un État qui avait, notamment après-guerre, dans le capital des entreprises, été présent pour notamment veiller à ce que l'intérêt du pays soit pris en compte. Cette dynamique-là du rôle de l'État, on nous a expliqué que l'État, c'était mort, qu'il n'y avait plus besoin de rien, que chacun était dans une libre concurrence et organisait des réseaux de solidarité à son niveau. Ben, je pense que la France doit aujourd'hui, dans la crise du libéralisme, avec l'idée d'une société d'économie mixte, c'est-à-dire le marché, l'État, les mutuelles, les coopératives, réinventer un modèle économique où l'intérêt général retrouve du sens et où on est capable, nous, de redonner souffle à notre modèle. Car tant que vous direz aux Français, bande de nazes, les Allemands sont géniaux, avant c'est les Anglais, il y a eu les Américains, on est toujours les derniers de la classe, nos dirigeants, nos élites vont dire dans le monde entier qu'on est des nazes. Moi, je les ai entendus au Parlement européen. Ils ne travaillent pas assez, on n'a pas un bon système de formation, on est toujours en train de critiquer. Je ne dis pas qu'il faut être béat, je dis qu'il faut produire un nouveau modèle français. C'est ce que dit Hérault. Sauf qu'il nous dit le nouveau modèle français, c'est faites comme les Allemands. Je m'excuse, non. Voilà. Je pense que la dépression, il nous faut des grands projets industriels, des grands défis à relever ensemble, redonner de la dignité à l'État et de l'efficacité et faire que nos élites arrêtent de considérer qu'il faut qu'on copie les autres parce qu'elles n'ont pas d'autre imagination à produire. Voilà.
Pour recréer du capital, il avait été question à un moment de revendre les participations de l'État dans les entreprises publiques. Ça représente quand même 62 milliards. Est-ce que vous êtes pour ?
Je suis contre réduire la voilure du capital public. Je suis pour l'utiliser de manière plus dynamique.
C'est-à-dire,
dans certains moments, vous avez besoin de mettre, par exemple, Florange, vous faites nationalisation temporaire. Quand il n'y a plus besoin, parce qu'il y a stabilisation industrielle, parce que la nature de l'actionnariat, vous savez que les gens ne partiront pas de France comme ça, et à ce moment-là, vous remettez votre argent sur des secteurs comme la BPI va le faire, des starters, etc. Mais moi, je suis pour l'aide en capital plutôt que l'aide en prêt. Parce que les pigeons qui pleurent, on leur a donné aux EO et tout des prêts bonifiés. Hein. Et après, quand la plus-value est là, hop, ils partent ailleurs, ils veulent engranger tout cela. Donc je suis pour qu'on ait, évidemment, qu'on valorise l'initiative, évidemment qu'on valorise l'entreprise. Mais je dis, le capital public est un atout. Le Sénégal est en train de faire un fonds souverain. On va chercher les fonds du Qatar. C'est des fonds publics. Là, on ne dit pas « Ah, il y a trop de public ». Eh bien, je dis la France doit se doter d'un capital de fonds souverains, en l'occurrence de présence capitalistique dans les entreprises, pour pouvoir être un actionnaire qui soutient le développement dans le pays et le maintien des activités dans le pays.
Alors, il vous reste une minute. Qu'est-ce que vous espérez ? Un changement de majorité au sein de la majorité ?
Non, j'espère que François Hollande ne va pas s'obstiner jusqu'à ce qu'on ait un trop grand affaiblissement en matière de chômage, en matière de désindustrialisation. J'espère qu'il va prendre la mesure du fait que la France peut et doit engager un changement de cap et doit porter en Europe un changement de cap, notamment la politique monétaire. Je lui demande, par exemple, de demander un sommet européen avant la fin de l'année sur la surévaluation de l'euro, car le traité donne aux États membres la possibilité de fixer la politique de change à la BCE. Or, on a capitulé devant alors qu'il y a une possibilité dans le traité. Or, on le sait, M. Clinton est venu pour expliquer à la France qu'on était en train de mourir de mort lente à cause de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Voilà un sujet où le changement de cap pourrait venir. Je lui demande de, par exemple, ne pas ouvrir les réformes de retraite à un moment où on sait que le chômage est fort, parce que ça, c'est le coup classique des libéraux, c'est quand tout va mal qu'on nous dit que la protection sociale coûte cher pour pouvoir mieux la détricoter. Oui, il y a un problème d'avenir de retraite, il n'y a pas une urgence à un an près, il faut d'abord la croissance et l'emploi.
Merci. C'était 30 minutes pour convaincre, une émission politique de Judaïque FM, animée par Gérard Hacoun et Vladimir Spiro. Nous recevions aujourd'hui Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice du Parti Socialiste de Paris. Au revoir et merci.
Au revoir et merci.